You rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Juin 1987, Tacoma, État de Washington, États-Unis. Je revois encore cette soirée comme si c'était hier. L'air de juin était encore tiède. Les rues de Tacoma baignaient dans cette lumière orangée qui précède la nuit. On était deux gamines dans un monde de grands. 14 ans et un cœur qui bat trop vite à l'idée de sortir sans permission. Carrie, ma meilleure amie depuis l'école primaire, m'avait mis du kohl à la va-vite dans les toilettes de la station-service. On a sauté dans le bus en riant comme des idiotes. Le concert du groupe local, un de ceux qui hurlent leurs textes comme des cris de guerre. La salle puait la bière tiède, la sueur, la fumée. Mais c'était là qu'on se sentait vivante. Carrie sautait dans la foule, criant comme si elle connaissait les paroles. Moi, je dansais plus timidement, les yeux toujours sur elle. Vers minuit, le groupe a joué son dernier morceau. Et on s'est retrouvés dehors, nos joues en feu, les cheveux collés au front, trempés de bonheur. Mais voilà, on avait oublié de vérifier les horaires du dernier bus. On s'est assis sur le trottoir et on s'est mis à rire de notre connerie. Puis Carrie s'est tournée vers moi et m'a dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, on fait du stop. J'ai haussé les épaules. Donc tu plaisantes à cette heure-ci? Oh, t'inquiète, je sens les gens. Si c'est un type louche, on passe. Moi, j'avais un mauvais pressentiment. Mais Carrie, elle dégage cette assurance, cette impression que rien ne peut lui arriver. On a marché un peu, longeant la route. Des phares se sont approchés. Un van beige, modèle ancien. Il a ralenti, s'est arrêté. La vitre côté conducteur s'est abaissée. Le gars avait l'air normal. Trop normal, trop lisse. Il a demandé où on allait. Il a dit qu'il pouvait nous déposer sur la nationale, juste quelques kilomètres plus loin. Je me suis figé, j'ai dit non, froidement. Mais Carrie m'a regardé, ce regard plein de défis que je connais par cœur. Allez, je te retrouve chez toi. C'est rien, il a pas une sale tête. Et avant même que je puisse la retenir, elle a ouvert la portière et elle est montée. Je l'ai regardée s'éloigner dans ce van beige, un nœud dans le ventre. J'ai pas dormi de la nuit. Sa mère a appelé la mienne à la première heure. Carrie n'est pas rentrée. La police est venue, a posé des questions. Personne ne savait rien. Silence. Disparue. Puis, fin de la journée, elle est réapparue, vivante. Elle n'a pas voulu parler au début, pas même à moi. Il a fallu du temps, et quand elle l'a fait, ce n'était pas d'un coup. C'était comme si chaque mot pesait une tonne. Elle m'a raconté par morceaux des bribes d'images qu'elle avait gardées sous la peau. Dès qu'elle est montée dans le van, le type a pris une autre route. Elle lui a demandé pourquoi, il n'a pas répondu, juste souri. Il a conduit longtemps, jusqu'à une zone boisée. Il avait un mobilhome caché derrière des pins. C'est là qu'il l'a emmené. Il a fermé la porte à clé. Et tout s'est figé. Il a attaché ses poignets, l'a suspendu à une poutre rouillée. Elle ne comprenait pas encore. Elle croyait que c'était une blague, une erreur. Puis, il a commencé à parler tout bas, comme s'il lui récitait une prière. Il a sorti un chalumeau. Elle m'a dit que la douleur était réelle, mais que ce n'était pas le pire. Le pire, c'était quand il lui parlait doucement. Quand il lui disait qu'elle était spéciale. qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Quand il l'a touchée sans violence, avec une sorte de tendresse fausse et perverse, entre deux accès de rage. Elle ne veut pas me dire ce qu'il lui a fait, mais je le sais. Je l'ai lu dans son silence, dans ses tremblements. Il l'a gardée là, dans le noir, pendant des heures. Parfois, il la détachait pour lui faire boire un peu d'eau. Il disait qu'il fallait qu'elle reste en forme. Le lendemain, il déclare qu'ils vont faire un tour, chercher l'essence. Il l'a fait monter dans le van, moins attachée. Comme s'il croyait qu'elle était soumise, brisée. À la pompe, il est descendu, est entré dans la boutique. Carrie a vu une mère dans une voiture voisine, avec un enfant à l'arrière. Elle a frappé la fenêtre. Elle a crié, elle a hurlé. La femme l'a vue, a appelé à l'aide. Carrie a réussi à ouvrir la portière. Elle a sauté et s'est sauvée. La police est arrivée et le type a été vite arrêté. Un moment qui est à l'origine de la chanson Polly, écrite par Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana. Cobain tombe sur un article de presse et est profondément touché par cette histoire. Il a souvent dénoncé la violence faite aux femmes dans ses textes et prises de parole, et malgré son ton cru, Polly est devenu un manifeste contre la brutalité sexiste. La chanson raconte l'histoire du point de vue du violeur, ce qui en fait une œuvre choquante et dérangeante. Elle a été volontairement conçue ainsi pour dénoncer la violence sexuelle. Cobain, féministe convaincu, voulait justement exposer l'horreur de ses actes en utilisant ce narrateur glaçant. Une approche souvent incomprise à la sortie. Le choix du prénom Polly n'est pas anodin. Ce n'est pas le vrai prénom de la victime. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Le morceau commence avec...
Polly wants a cracker.
Polly veut un biscuit. C'est une phrase cliché attribuée au perroquet domestique. Polly est un nom générique très courant pour ce type d'animal aux États-Unis. Ce prénom déshumanise la victime en la réduisant au rang d'animal de compagnie. Il symbolise aussi une forme de captivité, l'oiseau en cage, qui répète des phrases sans signification, comme prisonnier de son propre environnement. Kurt Cobain utilise cette image pour renforcer le cynisme du ravisseur, qui traite sa victime comme un animal incapable de se rebeller. Mais cette lecture est à l'envers de l'intention de Cobain. Il dénonce cette réduction. Je crois que je devrais d'abord descendre d'elle. Référence glaçante à une agression sexuelle. Je crois qu'elle veut de l'eau pour éteindre le chalumeau. Allusion directe à la véritable histoire. Ce vers révèle la cruauté du ravisseur qui semble lucide mais reste indifférent. Puis plus loin, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Une déresponsabilisation classique du profil psychologique des agresseurs. Le ravisseur nie son rôle tout en décrivant les actes. Cobain, à travers le ravisseur, admire aussi ironiquement la force de la victime. Il fait référence à son évasion.
She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me haven't seen.
Elle m'a pris par surprise. C'est incroyable, la force de l'instinct. Polly est une chanson volontairement dérangeante, mais écrite avec une intention éthique. Elle fait parler le ravisseur pour mettre en lumière l'horreur de son point de vue et souligner la force silencieuse de la victime qui, sans faire de bruit, finit par s'échapper. Polly est souvent citée comme un exemple de l'ambivalence artistique de Nirvana, capable de mélanger douceur acoustique et sujet ultra-violent. La chanson reste un cri de révolte silencieux, un témoignage d'empathie envers les victimes.
wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.